Chapitre 2. Le duc de Brissé recevait ce jour-là, à Brissé, le général Cartier de Chalmeau, l'abbé Guitrel et M. Leron, substitut des missionnaires. Ils avaient visité les écuries, le chenil, la faisanderie, et parlé cependant de l'affaire. Au déclin tranquille du jour, ils commençaient à traîner le pas sur la grande allée du parc. Devant eux, le château dressé dans un ciel gris pommelé et sa façade lourde, chargée de frontons et surmontée de toits à l'impérial. « Je le répète, dit M. de Brissé, l'agitation soulevée autour de cette affaire n'est et ne peut être qu'une manœuvre exécrable des ennemis de la France. » « Et de la religion, ajouta doucement M. l'abbé Guitrel, et de la religion. On ne saurait être un bon Français sans être un bon chrétien, et nous voyons que le scandale est soulevé principalement par les libres penseurs et les francs-maçons, par les protestants. Et les juifs, reprit M. de Brissé, les juifs et les allemands, quelle audace inouïe de mettre en question l'arrêt d'un conseil de guerre, car enfin il n'est pas admissible que sept officiers français se soient trompés. « Non, assurément, ce n'est pas admissible, dit M. l'abbé Guitrel. En thèse générale, dit M. Leron, une erreur judiciaire est la chose la plus invraisemblable. Je dirais même que c'est une chose impossible, tant la loi offre de garanties aux accusés. Je le dis pour la justice civile, je le dis aussi pour la justice militaire. Devant les conseils de guerre, l'accusé, s'il ne rencontre par toutes les garanties, dans les formes un peu sommaires de la procédure, les retrouve dans le caractère des juges. En mon sens, c'est déjà un outrage à l'armée que le doute est mis sur la légalité d'un arrêt rendu en conseil de guerre. « Vous avez parfaitement raison, dit M. de Brissé. D'ailleurs, peut-on admettre que sept officiers français se soient trompés? Peut-on l'admettre, général ?» « Difficilement, répondit le général Cartier de Chalmeau. Je l'admettrai pour ma part très difficilement. »« Le syndicat de trahison !» s'écria M. de Brissé. « C'est inouï !» La conversation alentie tomba. Le duc et le général virent des faisans dans une clairière et, pris du désir instinctif et profond de tuer, regrettèrent au-dedans d'eux-mêmes de n'avoir pas de fusil. « Vous possédez les plus belles chasses de toute la région, » dit le général au duc de Brissé. Le duc de Brissé songeait. « C'est égal, dit-il, les Juifs ne porteront pas bonheur à la France. » Le duc de Brissé, fils aîné du feu-duc qui avait brillé parmi le chevaux léger à l'assemblée de Versailles, était entré dans la vie publique après la mort du comte de Chambord. Il n'avait pas connu les jours d'espérance, les heures de lutte ardente, les entreprises monarchiques amusantes comme une conspiration, passionnées comme un acte de foi. Il n'avait pas vu le lit de tapisserie offert aux princes par les dames des châteaux, les drapeaux, les bannières, les chevaux blancs qui devaient ramener le roi. Député héréditaire de Brissé, il entra au palais Bourbon avec des sentiments d'inimitié sourde à l'endroit du comte de Paris et un secret désir de ne point voir le trône restauré pour la branche cadette. À cela près, monarchiste, loyal et fidèle. Il fut mêlé à des intrigues qu'il ne comprenait pas, s'embrouilla dans ses votes, fit la fête à Paris et, lors du renouvellement de la chambre, fut battu à Brissé par le docteur Cottard. Dès lors, il se consacra à l'agriculture, à la famille, à la religion. Dans ses domaines héréditaires, qui se composaient en 1789 de 112 paroisses, comprenant 170 hommages, 4 terres titrées, 18 châtellenies, il lui restait 800 hectares de terres et de bois autour du château historique de Brissé. Ces chasses lui donnaient dans le département un lustre qu'il n'avait point reçu du palais Bourbon. Les bois de Brissé et de la Guerche, où François Ier avait chassé, étaient célèbres aussi bien dans l'histoire ecclésiastique de la région. C'est là que se trouvait la chapelle vénérée de Notre-Dame des Bellefeuilles. « Retenez bien ce que je vous dis, répéta le duc de Brissé, les Juifs ne porteront pas bonheur à la France. Mais aussi, pourquoi ne se débarrasse-t-on pas d'eux? Ce serait si simple. » « Ce serait excellent, répondit le magistrat, mais ce n'est pas aussi simple que vous croyez, monsieur le duc. Il faut, pour atteindre les Juifs, faire d'abord de bonnes lois sur la naturalisation. Il est toujours difficile de faire une bonne loi qui réponde aux intentions des législateurs. Des dispositions législatives qui, comme celle-ci, modifieront tout notre droit public sont d'une rédaction singulièrement difficile. Et il n'est pas certain, malheureusement, qu'il se trouvera un gouvernement pour les proposer ou les soutenir, un parlement pour les voter. Le Sénat est mauvais. À mesure que se développe à nos yeux l'expérience de l'histoire, nous découvrons que le XVIIIe siècle est une vaste erreur de l'esprit humain, et que la vérité sociale, comme la vérité religieuse, se trouve tout entière dans la tradition du Moyen-Âge. La nécessité s'imposera bientôt en France, comme elle s'est imposée déjà en Russie, de renouveler à l'égard des Juifs les procédés en usage dans le monde féodal, vrai type de société chrétienne. « C'est évident, dit M. de Bressé. La France chrétienne doit appartenir aux Français et aux chrétiens, et non pas aux Juifs et aux protestants. « Bravo, dit le général. Il y a dans ma famille, poursuivit M. de Bressé, un cadet surnommé, je ne sais pourquoi, né d'argent, qui faisait la guerre dans la province sous Charles IX. Il fit pendre, à l'arbre que vous voyez là-bas, avec sa cime dénudée, 636 huguenots. Eh bien, je suis fier, je l'avoue, de descendre de né d'argent. J'ai hérité sa haine des hérétiques, et je déteste les Juifs comme ils détestaient les protestants. « Ce sont des sentiments bien louables, monsieur le duc, dit l'abbé Guitrel, bien louables et dignes du grand nom que vous portez. Permettez-moi seulement de vous présenter une observation sur un point particulier. Les Juifs n'étaient pas considérés au Moyen-Âge comme des hérétiques, et ils ne sont pas à proprement parler des hérétiques. L'hérétique est celui qui, ayant été baptisé, connaît les dogmes de la foi, les altère ou les combats. » Tels sont ou tels furent les Ariens, les Novatiens, les Montanistes, les Priscillianistes, les Manichéens, les Albigeois, les Vaudois et les Anabaptistes, les Calvinistes, si bien accommodés par votre illustre aïeul né d'argent, et tant d'autres sectateurs ou défenseurs de quelque opinion contraire à la croyance de l'Église. Le nombre en est grand, car la diversité est le propre de l'erreur. On ne s'arrête pas sur la pente funeste de l'hérésie. Le schisme produit le schisme à l'infini. On ne trouve en face de l'Église véritable que de la poussière d'Église. J'ai recueilli dans Bossuet, monsieur le duc, une admirable définition de l'hérétique. Un hérétique, dit Bossuet, est celui qui a une opinion à lui, qui suit sa propre pensée et son sentiment particulier. Or, le juif, n'ayant reçu ni le baptême ni la vérité, ne peut être dit hérétique. Aussi voit-on que l'Inquisition ne sévit jamais contre un juif en tant que juif, et que si elle en abandonna quelques-uns aux bras séculiers, ce fut comme profanateur, blasphémateur ou corrupteur des fidèles. Le juif, monsieur le duc, serait plutôt un infidèle, puisque nous nommons ainsi ceux qui, n'étant point baptisés, ne croient point les vérités de la religion chrétienne. Encore ne devons-nous point rigoureusement considérer le juif comme un infidèle, de la même sorte qu'un mahométan ou un idolâtre. Les juifs ont une place unique et singulière dans l'économie des vérités éternelles. Ils reçoivent de la théologie une désignation conforme à leur rôle dans la tradition. Au Moyen-Âge, on les nommait des témoins. Il faut admirer la force et l'exactitude de ce terme. Dieu les conserve en effet pour qu'ils servent de témoins et de garants des paroles et des actes sur lesquels notre religion est fondée. Il ne faut pas dire que Dieu rend exprès les Juifs obstinés et aveugles afin qu'ils servent de preuve au christianisme, mais il profite de leur obstination libre et volontaire pour nous confirmer dans notre croyance. Il les conserve dans ce dessein parmi les nations. Pendant ce temps, dit M. de Bressé, ils nous prennent notre argent et détruisent nos énergies nationales. « Ils insultent l'armée, dit le général Cartier de Chalmeau, ou mieux, ils la font insulter par des aboyeurs à leur gage. »« C'est criminel, dit monsieur l'abbé Guitrel avec douceur, le salut de la France est dans l'union du clergé et de l'armée. »« Alors, monsieur l'abbé, pourquoi défendez-vous les Juifs ?» demanda le duc de Bressé. Oh, bien éloigné de le défendre, répondit M. l'abbé Guitrelle, je condamne leur impardonnable erreur, qui est de ne pas croire à la divinité de Jésus-Christ. Sur ce point, leur opiniâtreté demeure invincible. Ce qu'ils croient est croyable, mais ils ne croient pas tout ce qu'il faut croire. Par là, ils se sont attirés la réprobation qui pèse sur eux. Cette réprobation est attachée à la nation et non point aux individus, et elle ne saurait atteindre les Israélites convertis au christianisme. Pour moi, dit M. de Bressé, les Juifs convertis me sont aussi odieux, et plus odieux peut-être que les autres Juifs. C'est la race que je hais. Permettez-moi de n'en rien croire, monsieur le duc, dit l'abbé Guitrelle, car ce serait pécher contre la doctrine et contre la charité. Et vous pensez, comme moi, j'en suis sûr, qu'il convient de savoir gré, dans une certaine mesure, aux personnes d'Israélites non converties, de leurs bonnes intentions et de leur libéralité en faveur de nos œuvres pieuses. On ne peut nier, par exemple, que les familles R et F aient donné à cet égard un exemple qui devrait être suivi dans toute la maison chrétienne. Je dirais même que Madame Worms Clavelin, bien qu'elle ne soit pas encore ouvertement convertie au catholicisme, a cédé dans plusieurs circonstances à des inspirations vraiment angéliques. Nous devons à l'épouse du préfet la tolérance dont jouissent, dans notre département, au milieu de la persécution générale, nos écoles congréganistes. Quant à Madame la baronne de Beaumont, juive de naissance, elle est chrétienne de fait et d'esprit, elle limite en quelque sorte ces saintes œuvres des siècles passés qui donnaient aux églises et aux pauvres une partie de leur richesse. Ces Beaumont, dit Monsieur Leron, s'appellent de leur vrai nom Gutenberg et sont d'origine allemande. Le grand-père s'est enrichi en fabriquant de l'absinthe et du vermouth, des poisons. Il a été condamné 3 fois comme contrefacteur et comme falsificateur. Le père, industriel et financier, fit une scandaleuse fortune dans la spéculation et les accaparements. Depuis lors, sa veuve a donné un ciboire d'or à Monseigneur Charlot. Ces gens-là me font songer aux 2 procureurs qui, après avoir entendu un sermon du bon père Maillard, se disaient l'un à l'autre tout bas, à la porte de l'église, « Compère, faut-il donc restituer ?» Il est remarquable, continua M. Leron, qu'il n'y ait point de question sémitique en Angleterre. C'est parce que les Français n'ont point le cœur placé comme nous l'avons, dit M. de Bressé, ni le sang bouillant comme le nôtre. Assurément, dit M. Leron, j'apprécie cette remarque, M. le duc, mais c'est peut-être aussi parce que les Anglais emploient leurs capitaux dans l'industrie, tandis que nos laborieuses populations réservent les leurs à l'épargne, c'est-à-dire à la spéculation, c'est-à-dire aux Juifs. Tout le mal vient de ce que nous avons des institutions, des lois et des mœurs de la Révolution. Le salut est dans un prompt retour à l'Ancien Régime. C'est vrai, dit Monsieur le duc de Bressé, pensif. Ils allaient ainsi conversant. Soudain, devant eux, par le chemin que le feuduc avait ouvert dans son parc aux habitants du bourg, un char à banc passa, rapide, gai, tapageur, portant au milieu de fermières en chapeau, à fleurs et de cultivateurs en blouse, un jovial gaillard à barbe rousse, fumant sa pipe, et qui fit mine avec sa canne d'ajuster des faisans. Le docteur Cottard, député en exercice de l'arrondissement de Bressé, ancienne seigneurie de Bressé. « C'est un spectacle au moins étrange, dit M. Leron en secouant la poussière du char à banc, de voir l'officier de santé Cottard représenter au Parlement cet arrondissement de Bressé que vos ancêtres, M. le duc, ont comblé pendant 800 ans de gloire et de bienfaits. Je relisais encore hier dans le livre de M. de Terremondre la lettre que le duc de Bressé, votre trisaïeul, écrivait en 1787 à son intendant, et dans laquelle il laisse voir la bonté de son cœur. Vous vous rappelez cette lettre, monsieur le duc ? M. de Bressé répondit qu'il croyait se la rappeler, mais que le terme même ne lui était pas présent. Et aussitôt, M. Leron cita de mémoire les phrases essentielles de cette lettre touchante. « J'ai appris, écrivait le bon duc, que l'on désolait les habitants de Bressé en les empêchant de prendre des fraises dans les bois. on trouvera le secret de me faire haïr, et cela me procurera un des plus vifs chagrins que je puisse avoir en ce monde. » Je trouvais encore, poursuivit M. Leron, d'intéressants détails sur la vie du bon duc de Bressé dans le précis de M. de Terremondre. Le duc passa ici même, sans être inquiété, les plus mauvais jours. Sa bienfaisance lui assura pendant la Révolution l'amour et le respect de ses anciens vassaux. En échange des titres qu'un décret de l'Assemblée nationale lui avait ôtés, il reçut celui de commandant de la garde nationale de Bressé. M. de Terremondre nous apprend encore que le 20 septembre 1792, la municipalité de Bressé se rendit dans la cour du château et y planta un arbre de la liberté auquel cette inscription fut suspendue « Hommage à la vertu ». Monsieur de Terremondre, répliqua le duc de Bressé, a puisé ses renseignements dans les archives de ma famille. Je les lui ai fait ouvrir. Malheureusement, je n'ai jamais eu le loisir d'en prendre connaissance par moi-même. Le duc Louis de Bressé, dont vous parlez, surnommé le bon duc, mourut de chagrin en 1794. Il était doué d'un caractère bienveillant auquel les révolutionnaires eux-mêmes se plurent à rendre hommage. On s'accorde à reconnaître qu'il s'honora par sa fidélité à son roi, qu'il fut bon maître, bon père et bon mari. Il ne faut tenir aucun compte des prétendues révélations produites par un M. Mazure, archiviste départemental, d'après lesquelles le bon duc aurait entretenu des relations intimes avec ses plus jolies vassales et volontiers exercé le droit de jambage. Au reste, c'est là un droit fort hypothétique et dont, pour ma part, je n'ai jamais découvert la trace dans les archives de Bressé qui ont déjà été dépouillées en partie. « Ce droit, dit M. Leron, s'il a jamais existé dans quelque province, se réduisait à une redevance de viande ou de vin que les serfs avaient à fournir à leur seigneur avant de contracter mariage. Je crois me rappeler que dans certaines localités, cette redevance se payait en espèces sonnantes et qu'elle était de 3 sous. » À cet égard, reprit M. de Bressé, « je crois que le bon duc est entièrement lavé des accusations portées par ce monsieur Mazure, qu'on me dit être un mauvais esprit. Malheureusement, monsieur de Bressé poussa un léger soupir et reprit d'une voix un peu plus basse et voilée, malheureusement, le bon duc lisait beaucoup de mauvais livres. On a trouvé dans la bibliothèque du château des éditions entières de Voltaire et de Rousseau, reliées en maroquin à ses armes. Il subit en quelque sorte la détestable influence que les idées philosophiques exerçaient à la fin du XVIIIe siècle sur toutes les classes de la nation, et même, il faut bien le dire, sur la haute société. Il avait la manie d'écrire. Il a rédigé des mémoires dont je possède le manuscrit. Madame de Bressé et M. de Terremondre y ont jeté les yeux. On est surpris de trouver dans ses mémoires quelques traits de l'esprit voltairien. M. de Bressé s'y montre parfois favorable aux encyclopédistes. Il était en correspondante avec Diderot. Aussi n'ai-je pas cru devoir autoriser la publication de ses mémoires, malgré les sollicitations de plusieurs érudits de la région et de M. de Terremondre lui-même. Le bon duc tournait assez joliment les vers. Il remplissait des cahiers entiers de madrigaux, d'épigrammes et de contes. C'est bien pardonnable. Ce qu'il est moins, c'est qu'il se laissait aller, dans ses poésies fugitives, jusqu'à railler les cérémonies du culte et même les miracles opérés par l'intervention de Notre-Dame des Bellefeuilles. Je vous prie, monsieur, de n'en rien dire. Cela doit rester entre nous. Je serais désolé de livrer ces anecdotes en pâture à la malignité publique et à la curiosité malsaine d'un monsieur Mazure. Ce duc de Bressé est mon trisaïeul. Je pousse très loin l'esprit de famille. Je pense que vous ne m'en blâmez pas. Il y a, monsieur le duc, dit l'abbé Guitrel, un enseignement précieux et de grande consolation à tirer des faits que vous venez de produire. Nous en pouvons conclure que la France, tombée au XVIIIe siècle dans l'irréligion et gagnée à l'impiété jusque dans ses sommets, à ce point que des hommes honorables par ailleurs, comme monsieur votre trisaïeul, sacrifiaient à la fausse philosophie, que la France, dis-je, punie de ses crimes par une affreuse révolution dont les effets se font sentir encore, revient à la récipiscence et voit renaître la piété dans toutes les classes de la nation, et particulièrement dans les classes les plus hautes. Un exemple tel que le vôtre, monsieur le duc, ne saurait être perdu. Si le XVIIIe siècle, considéré dans son ensemble, peut paraître le siècle du crime, le XIXe, vu de haut, pourra être nommé, si je ne m'abuse, le siècle de l'amende honorable. « Puissiez-vous dire vrai, soupira monsieur Leron, mais je n'ose l'espérer. Mis en contact par ma profession d'avocat avec la masse de la population, je la trouve le plus souvent indifférente ou même hostile en matière religieuse. Mon expérience du monde, permettez-moi de vous le dire, monsieur l'abbé, me dispose à épouser la tristesse profonde de monsieur l'abbé Lantaigne, bien loin de me faire partager votre optimisme. » Et, sans sortir d'ici, ne voyez-vous pas que la terre chrétienne de Bressé est devenue le fief du docteur Cottard, athée et franc-maçon ? Et qui sait, demanda le général, si M. de Bressé n'est pas en état de battre M. Cottard aux prochaines élections ? On m'a dit que la lutte n'était pas impossible et qu'un assez grand nombre d'électeurs se montraient disposés à voter pour le château. « Ma résolution est ferme, répondit M. de Bressé. On n'en me fera pas changer. Je ne me présenterai pas à la députation. Je n'ai pas ce qu'il faut pour représenter les électeurs de Bressé, et les électeurs de Bressé n'ont pas ce qu'il faut pour que je les représente. » Cette parole lui avait été inspirée, lors de son échec électoral, par M. Lacris, son secrétaire, et depuis lors il se plaisait à la prononcer chaque fois qu'il en trouvait l'occasion. À ce moment, le duc et ses hôtes virent venir à eux trois dames qui, ayant descendu les degrés du perron, s'avançaient par la grande allée du parc. C'étaient les trois dames de Bressé, la mère, la femme et la fille du duc actuel, toutes trois grandes, massives, les cheveux plats et tirés, le teint hâlé, le visage couvert de taches de rousseur, vêtues de lainage noir et fortement chaussées. Elles allaient à la chapelle de Notre-Dame des Bellefeuilles, situé dans le parc, à mi-chemin du bourg et du château, au bord d'une source. Le général proposa d'accompagner ces dames. « Nous ne pouvons mieux faire, » dit M. Leron. « Assurément, » dit M. l'abbé Guitrelle, « d'autant plus que le sanctuaire, restauré par les soins de M. le duc, revêtu d'une riche décoration, offre au regard l'aspect le plus heureux. » L'abbé Guitrelle prenait un intérêt particulier à la chapelle de Notre-Dame des Bellefeuilles. Il en avait écrit l'histoire et une brochure archéologique et pieuse conçue pour attirer les pèlerins. L'origine du sanctuaire remontait, selon lui, au règne de Clotaire II. À cette époque, disait l'historien, saint Austrégisil, chargé d'ans et d'œuvres, épuisé par ses travaux apostoliques, a bâti de ses mains, en ce lieu désert, une cabane pour y attendre, dans la méditation, l'heure de sa mort bienheureuse, et un oratoire, afin d'y déposer une histoire miraculeuse de la Sainte Vierge. Cette assertion avait été vivement combattue dans Le Phare par M. Mazure. L'archiviste départemental soutenait que le culte de Marie était bien postérieur au VIe siècle, et qu'à l'époque où l'on présume que vécut Austrégisil, il n'y avait point de statue de la Vierge. À quoi M. Guitrelle répondit, dans la semaine religieuse, que les druides eux-mêmes, avant la naissance de Jésus-Christ, vénéraient les images de la Vierge qui devait enfanter, et qu'ainsi, sur notre vieux sol, destiné à voir fleurir avec un éclat singulier le culte de la Sainte Vierge, Marie eut des autels et des images, pour ainsi dire prophétiques, comme le témoignage des Sibylles et qui devancèrent sa venue au monde. Que, par conséquent, il n'y avait pas lieu d'être surpris que saint Austrégisil possédât, au temps de Clotaire II, une image de la Sainte Vierge. M. Mazure avait traité de rêverie les arguments de M. Guitrelle, et personne n'avait lu cette polémique, hors M. Bergeret, qui était curieux de toutes choses. Le sanctuaire élevé par le Saint-Apôtre, poursuivait dans sa brochure M. l'abbé Guitrelle, fut reconstruit avec une grande magnificence au XIIIe siècle. Lors des guerres de religion qui désolèrent la contrée au XVIe siècle, les protestants incendièrent la chapelle sans pouvoir toutefois détruire la statue qui échappa miraculeusement aux flammes. Le sanctuaire fut relevé sur le désir du roi Louis XIV et de sa pieuse mère, mais il fut détruit de fond en comble sous la terreur par les commissaires de la Convention qui portèrent la statue miraculeuse dans la cour du château de Bressé avec le mobilier de la chapelle et en firent un feu de joie. Un pied de la Vierge fut heureusement soustrait aux flammes par une bonne paysanne qui le garda précieusement sous de vieux linges au fond d'un chaudron où il fut retrouvé en 1815. Ce pied fut renfermé dans la nouvelle statue exécutée à Paris en 1852 grâce à la munificence du feu-duc de Bressé. Monsieur l'abbé Quitrel énumérait ensuite les miracles accomplis depuis le VIe siècle jusqu'à nos jours par l'intervention de Notre-Dame des Bellefeuilles. Notre-Dame des Bellefeuilles était spécialement invoquée pour les affections des voies respiratoires et des poumons, mais M. Guitrel affirmait qu'elle avait écarté en 1871 les soldats allemands du bourg et du château de Bressé et guéri miraculeusement de leurs blessures deux mobiles d'Ardèche dirigés sur le château de Bressé, alors converti en hôpital. Ils atteignirent le creux d'un étroit vallon où courait un ruisseau entre des pierres moussues. Là, sur une base de grès erratique couronnée de chênes nains, s'élevait l'oratoire de Notre-Dame des Bellefeuilles, nouvellement construit, d'après les plans de M. Quatrebarbe, architecte diocésain, dans un style moderne et dévot que les gens du monde croyaient être gothique. Cet oratoire, dit M. l'abbé Guitrel, incendié en 1559 par les calvinistes et dépouillé par les révolutionnaires en 1793, n'était plus qu'un amas de décombres. Comme un autre Néhémie, M. le duc de Bressé vient de relever le sanctuaire. Le pape y a, cette année même, attaché de nombreuses indulgences, dans le dessein sans doute de raviver en ce pays le culte de la Sainte Vierge. Monseigneur Charlot y est venu lui-même célébrer les saints mystères, et depuis lors les pèlerins affluent, il en vint de toutes les parties du diocèse, il en vient même des lieux circonvoisins. Nul doute que ce zèle, ce concours, n'attire des grâces importantes sur la contrée. Moi-même j'ai eu le bonheur d'amener au pied de la Vierge des Bellefeuilles plusieurs familles honnêtes du faubourg des Tintelleries, et avec la permission du duc de Bressé, j'ai plusieurs fois dit la messe sur cet hôtel privilégié. C'est vrai, dit Madame de Bressé, et je m'aperçois que M. Guitrel porte à notre chapelle plus d'intérêt que M. le curé de Bressé. Ah, ce bon M. Traviès, dit le duc, c'est un excellent prêtre, mais un chasseur passionné. Il ne songe qu'à tirer des perdreaux. L'autre jour, en revenant de porter l'extrême onction à un mourant, il a ramassé 3 pièces. Vous pouvez, messieurs, dit l'abbé Guitrel, contempler, à travers les branches dénudées, la chapelle qui, dans la belle saison, disparaît sous le feuillage épais. Une des raisons, dit M. de Bressé, pour lesquelles je me suis déterminé à relever la chapelle de Notre-Dame des Bellefeuilles, c'est que j'ai appris, par suite de recherches opérées dans mes archives, que le cri de guerre de ma famille était « Bercez Notre-Dame ». « C'est curieux, dit le général Cartier de Chalmot. N'est-ce pas ? Dit Madame de Bressé. Au moment où les dames de Bressé, suivies de M. Leron, traversaient le ruisseau sur le pont rustique appuyé à la base de la chapelle, une fillette de 13 ou 14 ans, déguenillée, les cheveux d'un blanc sale comme son visage, se coulait hors des taillis de l'autre côté du ravin, montait les degrés et s'élançait dans l'oratoire. C'est Honorine, dit Madame de Bressé. J'étais depuis longtemps curieux de la voir, dit M. Leron, et je vous remercie, madame, de l'occasion que vous m'offrez de satisfaire ma curiosité. On a tant parlé d'elle. Effectivement, dit le général Cartier de Chalmot, cette jeune fille a été l'objet de véritables enquêtes. Monsieur de Goulet, dit l'abbé Guitrel, fréquente assidûment le sanctuaire de Notre-Dame des Bellefeuilles. Il se plaît à passer de longues heures auprès de celle qu'il appelle sa mère. « Nous aimons beaucoup Monsieur de Goulet, dit Madame de Bressé. Quel dommage qu'il soit d'une santé si délicate. Hélas, oui, dit l'abbé Guitrel, ses forces déclinent de jour en jour. Il devrait se ménager, dit madame de Bressé, et prendre du repos. Le peut-il, madame, dit l'abbé Guitrelle. L'administration du diocèse ne lui laisse pas un instant de loisir. Les trois dames de Bressé, le général, M. Guitrelle, M. Leron et M. de Bressé, virent en entrant dans la chapelle Honorine en extase au pied de l'autel. L'enfant, agenouillé, les mains jointes et le cou tendu, ne bougeait pas. Ils respectèrent l'état mystérieux où ils la trouvaient, et ayant pris de l'eau bénite en silence, ils promenèrent lentement leurs regards du tabernacle gothique aux vitraux représentant saint Henri sous les traits du comte de Chambord, saint Jean-Baptiste et saint Guy exécutés, quant au visage, d'après les photographies du comte Jean, décédé en 1867, et du feu comte Guy, membre en 1871 de l'Assemblée de Bordeaux. Un voile recouvrait la statue miraculeuse de Notre-Dame des Bellefeuilles qui surplombait l'autel. Mais sur le mur peint de couleurs vives du côté de l'évangile, au-dessus du bénitier, se tenait debout, toute claire, sainte de son écharpe bleue, Notre-Dame de Lourdes. Le général tourna vers elle des yeux façonnés par 50 ans de respect mécanique et contempla l'écharpe bleue comme si c'eût été le drapeau d'une nation amie. Il avait toujours été spiritualiste. Il avait toujours considéré la croyance à une vie future comme la base même des règlements militaires. Avec l'âge et la maladie, il devenait pieux et pratiqué. Depuis quelques jours, sans en laisser rien paraître, il était troublé, tout au moins attristé, par les récents scandales. Sa candeur s'effrayait d'un tel tumulte de paroles et de passions. De vagues craintes l'agitaient. Il pria mentalement Notre-Dame de Lourdes de protéger l'armée française. Tous maintenant, les femmes, le duc, l'avocat, le prêtre, tenaient leur regard attaché sur les souliers percés d'Honorine immobile. Grave, épais et morne, il se figeait en admiration devant ces petits reins de chat sauvage, tout roidis, et M. Leron, qui se piquait d'être observateur, faisait des observations. Enfin, Honorine sortit de son extase. Elle se leva, salua l'autel, se retourna, et, comme surprise de voir tant de monde, s'arrêta, écartant des deux mains les cheveux qui lui couvraient les yeux. « Eh bien, mon enfant, avez-vous vu la Sainte Vierge cette fois ?» demanda madame de Bressé. Honorine prit pour répondre sa voix des catéchismes, la voix aiguë et montante des réponses apprises. « Oui, madame, la bonne Vierge est restée un bon moment, puis elle s'est roulée comme une toile, et puis je n'ai plus rien vu. »«
Elle vous a parlé ?»«
Oui, madame. » »«
Que vous a-t-elle dit ?»«
Elle m'a dit qu'il y a bien de la misère à la maison. »
Ne vous a-t-elle pas dit autre chose ?
Elle a dit il y aura bien de la misère à la campagne sur le rapport des récoltes et des bestiaux.
Ne vous a-t-elle pas dit d'être sage ?
Il faut bien prier, qu'elle m'a dit. Et puis, elle a dit comme ça, je vous salue. Il y a bien de la misère à la maison.
Et les paroles de l'enfant résonnaient dans un silence auguste.
« Elle était bien belle, la Sainte Vierge ?» demanda encore madame de Bressé. « Oui, madame, seulement il lui manquait un œil et une joue, parce que je n'avais pas assez prié. »
« Avait-elle une couronne sur la tête ?» demanda M. Leron, qui, ayant appartenu à la magistrature, était curieux et interrogeant.
Honorine hésita, prit un air sournois et répondit « Elle avait sa couronne à côté de la tête. »
« À droite ou à gauche ?» demanda M. Leron.
« À droite et à gauche, » répondit Honorine.
Madame de Bressé intervint.
« Vous voulez dire, mon enfant, tantôt à droite et tantôt à gauche, n'est-ce pas là ce que vous voulez dire ?»
Mais Honorine ne fit point de réponse. Elle s'enfonçait parfois dans ses silences sauvages, baissant les yeux, frottant son manteau sur son épaule et se tournant les hanches. On cessa de l'interroger. Elle se glissa dehors et M. de Bressé donna des explications. Honorine Porrichet, fille de cultivateur établie depuis de longues années à Bressé et tombée dans un complet dénuement, avait mené une enfance maladive. D'une intelligence lente et tardive, on l'avait d'abord crue idiote. M. le curé lui reprochait son humeur sauvage et son habitude de se cacher dans les bois. il ne lui était pas favorable, mais des ecclésiastiques éclairés qui la virent et l'interrogèrent ne découvrirent rien de mauvais en elle. Elle fréquentait les églises et y demeurait dans des rêveries qui n'étaient pas de son âge, sa piété s'exaltant encore aux approches de sa première communion. Elle fut atteinte à cette époque d'une phtisie laryngée et condamnée par les médecins. Le docteur Cottard, entre autres, déclara qu'elle était perdue. Quand le nouvel oratoire de Notre-Dame des Bellefeuilles fut inauguré par Monseigneur Charlot, Honorine s'y rendit assidûment. Elle y eut des extases et des visions. Elle vit la Sainte Vierge qui lui dit « Je suis Notre-Dame des Bellefeuilles ». Un jour, Marie s'approcha d'elle et lui toucha la gorge en lui annonçant qu'elle était guérie. Honorine, ajouta M. de Bressé, rapporta elle-même ce fait extraordinaire. Elle le fit plusieurs fois, avec une grande simplicité. On prétend qu'elle a varié dans ses déclarations, mais il est certain que ses incertitudes ne portent que sur des circonstances accessoires. Il est certain aussi qu'elle cessa subitement de souffrir du mal qui la terrassait. Les médecins qui l'examinèrent et l'auscultèrent à la suite de l'apparition miraculeuse ne constatèrent rien d'anormal aux bronches ni aux poumons. Le docteur Cottard lui-même avoua qu'il ne comprenait rien à cette guérison. « Que pensez-vous de ces faits ? » demanda M. Leron à l'abbé Guitrel. « Ils sont dignes d'attention, répondit le prêtre. Ils inspirent à tout observateur de bonne foi des réflexions de plus d'un genre. On ne saurait trop les étudier. » Quant à dire davantage, je ne puis. Certes, je n'écarterai pas, comme M. Lantaigne, avec un dédain téméraire des faits si intéressants, si consolants. Je n'oserai pas non plus, comme M. de Goulet, les qualifier de miraculeux. Je m'abstiens. Il faut considérer, dit M. de Bressé, dans le cas de la jeune Honorine Porrichet, d'une part la guérison vraiment extraordinaire, et je puis dire en opposition avec la science médicale, et d'autre part les visions dont elle se dit gratifiée. Or, vous n'ignorez pas, monsieur l'abbé, que les yeux de cette jeune fille ayant été photographiés pendant une de ces visions, le cliché obtenu par l'opérateur, dont la bonne foi ne peut être suspectée, reproduisit l'image de la Sainte Vierge imprimée dans la pupille de la voyante. Des personnes sérieuses affirment avoir vu ces photographies et avoir distingué, à l'aide d'une forte loupe, la statue de Notre-Dame des Bellefeuilles. « Ce sont des faits dignes d'attention, répondit l'abbé Guitrel, dignes de l'attention la plus soutenue, mais il faut savoir suspendre son jugement, ne point tirer des conclusions prématurées. N'imitons pas les incrédules qui se hâtent de conclure au gré de leur passion. L'Église, en matière de miracles, est d'une extrême défiance. Elle exige des preuves irréfutables. » Monsieur Leron demanda s'il était possible de se procurer les photographies présentant l'image de la Sainte Vierge dans la pupille de la jeune Honorine Porrichet, et Monsieur de Bressé promit d'écrire à ce sujet au photographe qui avait son atelier, croyait-il, en ville sur la place Saint-Exupère. « Quoi qu'il en soit, dit Madame de Bressé, cette petite Honorine est très honnête, très sage, et il faut bien que ce soit par une protection d'en haut, car elle est abandonnée de ses parents, que la misère et la maladie accablent. Je me suis assuré qu'elle tenait une bonne conduite. » « Ce qui n'est pas le cas de toutes les filles de son âge au village, ajouta Madame la Duchesse Douairière de Bressé. « Il n'est que trop vrai, dit M. de Bressé. La démoralisation va croissant dans les classes agricoles. Général, je vous en citerai des exemples effrayants, mais cette petite Honorine est l'innocence même. » Tandis que ces propos étaient tenus sur le seuil de la chapelle, Honorine avait rejoint Isidore dans les fourrés de la Guerche. Isidore l'attendait là sur un lit de feuilles mortes. Il attendait avec impatience, pensant qu'elle lui apporterait quelque chose à manger, ou des sous, et il l'attendait aussi pour l'amour d'elle, parce qu'elle était sa bonne amie. C'est lui-même qui, ayant vu tantôt les messieurs et les dames du château aller à la chapelle, en avait tout de suite averti Honorine pour qu'elle courût se mettre en extase. Il lui demanda « Quoi qu'ils t'ont donné, fais voir !» Et comme elle n'apportait rien, il la battit, sans lui faire grand mal. Elle le griffa et le mordit. Puis elle lui dit « À quoi ça sert ?» Il lui dit jure qu'ils ne t'ont rien donné. » Elle jura, et ayant sucé le sang qui perlait sur leurs pauvres bras, ils se réconcilièrent. Et comme ils n'avaient rien, ils s'amusèrent sur eux-mêmes et prirent leur plaisir l'un de l'autre. Isidore, né d'une veuve, mauvaise femme adonnée à la boisson, n'avait pas de père connu. Il passait sa vie dans les bois. Personne ne s'occupait de lui. De 2 ans plus jeune qu'Honorine, il avait une longue habitude des choses de l'amour. Ces choses étaient même les seules qui ne lui eussent jamais manqué sous les arbres de la Guerche, de Lénonville et de Bressé. Ce qu'il en faisait avec Honorine était par désœuvrement et faute d'une autre occupation. Honorine y mettait par moments un goût plus vif, mais elle ne pouvait donner beaucoup de prix à des actions si communes et si faciles. Il suffisait d'un lapin, d'un oiseau, d'un gros insecte pour les en distraire. Monsieur de Bressé rentra au château avec ses invités. Les murs froids du vestibule étaient hérissés de massacres, de bois de cerf, de têtes de daguet et de dicors qui gardaient, dans la prêt du naturaliste, et sous les mangeurs des vers, la tristesse des abois, et dont l'œil d'émail semblait encore répandre cette sueur d'agonie pareille à des larmes. Cornes andouillées, os blanchis, têtes coupées, hurs, trophées par lesquels les victimes célébraient leurs meurtriers illustres, gentilshommes de France, bourbons de Naples et d'Espagne. Sous l'escalier monumental s'enfonçait une voiture amphibie dont la caisse en façon de barque se démontait et servait dans les chasses au passage des rivières. Elle était vénérée pour avoir traîné des rois exilés. Monsieur l'abbé Guitrel posa soigneusement son riflard de coton sous le visage noir d'un ragot formidable et passa le premier entre les deux cariatides tourmentées de Ducerceau par la porte de gauche qui donnait accès au salon où les 3 dames de Bressé, rentrées les premières au château, se tenaient avec madame de Courtrai, leur voisine et amie. Vêtue de noir, dans la suite ininterrompue des deuils de famille et des deuils princiers, très simples, agrestes et monastiques, ces dames causaient entre elles de mariages et de morts, de maladies et de médicaments, sous les peintures des plafonds et des lambris où apparaissait, çà et là, dans le noir opaque des toiles, la barbe grise d'un Henri IV embrassé par une Minerve tétonnière, la face pâle d'un Louis XIII opprimé par les croupes flamandes de la victoire et de la clémence aux tuniques envolées, la nudité rouge-brique d'un vieillard, le temps épargnant les fleurs de lys, et encore et partout les reins à fossettes des petits génies qui soutenaient l'écu des Bressé aux 3 torches d'or. Cependant, madame la duchesse Douairière de Bressé tricotait des fichus de laine noire pour les orphelines. Sans cesse, elle y occupait ses mains et y contentait son cœur, depuis le temps déjà lointain où elle avait brodé une courte pointe pour le lit dans lequel le roi devait coucher à Chambord. Sur les consoles, sur les tables, s'étalait une multitude de photographies, dans des cadres achevalés, de couleurs et de formes variées, en peluche, en cristal, en nickel, en porcelaine, en galucha, en bois sculpté, en cuir gaufré. Il s'en trouvait de dorés, imitant un fer à cheval, une palette avec des couleurs et les brosses, une feuille de marronnier, un papillon. Et dans ces cadres figuraient des femmes, des hommes, des enfants, parents ou alliés, des princes de la maison de Bourbon, des prélats, le comte de Chambord et le pape Pie IX. À droite de la cheminée, sur une console ancienne portée par des turcs dorés, Monseigneur Charlot souriait de toute sa large face, comme un père spirituel, aux jeunes militaires pressés autour de lui, officiers, brigadiers, simples soldats, portant sur la tête, le col et la poitrine tout ce que l'armée démocratique a laissé de parure martiale à sa cavalerie. Il souriait aux adolescents en tenue de bicyclette ou de polo, il souriait aux jeunes filles. Il y avait des dames jusque sur les tables volantes, des dames de tout âge, plusieurs aux traits accentués ayant l'air d'hommes, 2 ou 3 charmantes. « Mame de Courtrai !» s'écria Monsieur de Bressé en entrant derrière le général. « Comment va, chère mame ?» Et poursuivant dans un coin du vaste salon la conversation commencée dans le parc avec Monsieur Leron, il conclut « Ah, car enfin l'armée, c'est tout ce qui nous reste !» de tout ce qui faisait autrefois la force et la grandeur de la France, il ne subsiste absolument plus que l'armée. La République parlementaire a ébranlé le gouvernement, compromis la magistrature, corrompu les mœurs publiques. L'armée reste seule, debout, sur ses ruines. C'est pourquoi je dis qu'il est sacrilège d'y toucher. » Il s'arrêta. N'ayant pas l'habitude de serrer de près les questions, il s'en tenait d'ordinaire aux généralités. Personne ne contestait la noblesse de ses sentiments. Madame de Courtrai, jusque-là renfermée dans des réflexions sur les tisanes, dressa la tête et leva sur Monsieur de Bressé sa face de vieux garde-chasse. « J'espère bien que vous avez notifié votre désabonnement à ce journal qui fait cause commune avec les ennemis de l'armée et de la patrie. Mon mari a renvoyé à l'administration le numéro qui contenait l'article, vous savez, l'article infâme. » « Mon neveu, répondit M. de Bressé, m'a écrit qu'à son cercle une pétition est affichée pour exiger le désabonnement et qu'elle se couvre de signatures. Presque tous les membres du cercle y adhèrent, à la réserve d'acheter le journal au numéro. « L'armée, dit M. Leron, est au-dessus de toutes les attaques. » Le général Cartier de Chalmeau rompit le silence dans lequel il s'était enfermé jusque-là. « J'aime à vous l'entendre dire, et si, comme moi, vous viviez avec le soldat, vous seriez agréablement surpris de constater les qualités d'endurance, de discipline, d'entrain et de bonne humeur qui font du troupier français un outil tactique de premier ordre. Je ne me lasse pas de le dire, de telles unités sont à la hauteur de toutes les tâches. J'affirme, avec l'autorité d'un chef parvenu au terme de sa carrière, que, si l'on envisage l'esprit qui l'anime, l'armée française mérite tous les éloges. De même, je me plais à rendre hommage aux efforts persévérants dont l'organisation de cette armée a été l'objet de la part de plusieurs officiers généraux de la plus haute capacité, et je déclare que ces efforts ont été couronnés d'un éclatant succès. » Il ajouta, d'une voix plus basse et plus grave, « Il ne me reste qu'à émettre cette maxime qu'il faut considérer, en fait d'homme, la qualité préférablement au nombre, et s'attacher à former des corps d'élite. En exprimant ces idées, je suis sûr de n'être démenti par aucun grand capitaine. Mon testament militaire est contenu dans cette formule, le nombre n'est rien, la qualité est tout. J'ajouterai que l'unité de direction est indispensable à une armée et que ce grand corps doit obéir à une volonté unique, souveraine, immuable. » Il se tut. Le regard de ses yeux pâles était noyé de larmes. Des sentiments confus, inexpliqués, envahissaient l'âme de cet honnête et simple vieillard, le plus beau capitaine jadis de la garde impériale, malade maintenant, usé, perdu comme dans une forêt au milieu de ce monde militaire nouveau qu'il ne comprenait pas. Madame de Courtrai, qui ne goûtait guère les théories, tourna vers le général son regard de vieil homme farouche. « Général, puisque, Dieu merci, l'armée est respectée de tous, puisqu'elle est la seule force autour de laquelle nous restons tous groupés, pourquoi ne serait-elle pas aussi le gouvernement ? Pourquoi ne pas envoyer un colonel avec son régiment au palais Bourbon et à l'Élysée ?» Elle arrêta ses paroles devant le front nuageux du général. Monsieur de Bressé fit signe du doigt à Monsieur Leron. « Vous n'avez pas vu la bibliothèque, Monsieur Leron? Je vais vous la montrer. Vous aimez les livres anciens. Je suis sûr qu'elle vous intéressera. » À travers une galerie vaste et nue, dont le plafond était couvert d'une lourde peinture, représentant Apollon et Louis XIII écrasant les ennemis du royaume, figurés par des furies et des hydres, M. de Bressé conduisit l'avocat des congrégations dans la salle où le duc Guy, maréchal de France, gouverneur de la province, avait établi la bibliothèque vers 1705, au déclin de sa fortune et de son âge. C'était une salle carrée qui, occupant tout le rez-de-chaussée du pavillon ouest, était éclairée au nord, au couchant et au midi, par trois fenêtres sans rideaux, offrant trois tableaux clairs, charmants et magnifiques. au midi, chez la pelouse, un vase de marbre sur lequel deux ramiers étaient posés, les arbres du parc affinés par l'hiver, et dans la profondeur d'une allée de pourpre, les blanches statues du bassin de Galatée. Au couchant, la terre abaissée, découvrant le ciel et le soleil, comme un œuf mythologique de lumière et d'or, brisé, répandu dans les nuées. Au nord, sous une clarté précise et froide, les coteaux labourés, la terre violette, l'ardoise et la fumée lointaine des toits de Bressé, le clocher, fin comme une aiguille, de la petite église. Une table Louis XIV, deux chaises, une sphère terrestre du XVIIe siècle, avec une rose des vents sur l'étendue inexplorée du Pacifique, meublaient cette chambre sévère. Des armoires grillées en garnissaient les murs jusqu'au plafond. Leurs tablettes de bois peint en gris régnaient jusque sur la cheminée de verre antique, et l'on voyait, à travers les mailles de fil de cuivre doré, les dos à fleurettes des livres anciens. « La bibliothèque, dit M. de Bressé, a été commencée par le maréchal. Le duc Jean, son petit-fils, l'a beaucoup enrichi sous Louis XVI, et c'est lui qui l'a aménagée telle que vous la voyez. On n'y a pas beaucoup touché depuis. » « Vous avez le catalogue ? » demanda M. Leron. M. de Bressé répondit que non. M. de Théremondre, grand amateur de vieux livres, l'avait vivement engagé à le faire faire, mais il n'avait jamais eu le loisir de s'en occuper. Il ouvrit une des armoires, et M. Leron tira à lui successivement plusieurs volumes, des in-octavo, des in-quarto, des in-folio, reliés en veaux marbre, en veaux racines, en veaux granit, en parchemin, en maroquin rouge ou bleu, et tous portant sur les plats l'écu aux trois torches surmontées de la couronne ducale. M. Leron n'était pas un fin bibliophile. Pourtant, il s'émerveilla, ayant mis la main sur un manuscrit admirablement calligraphié de la dîme royale offert par Vauban au maréchal. Ce manuscrit était orné d'un frontispice ainsi que de plusieurs vignettes et écus de lampe. « Ce sont des dessins originaux, dit M. Leron. Probablement, dit M. de Bressé. Ils sont signés, dit M. Leron. Je crois pouvoir lire le nom de Sébastien Leclerc. C'est bien possible, dit M. de Bressé. M. Leron remarqua, dans ses riches armoires, les livres de Tillemont sur l'histoire romaine et sur l'histoire ecclésiastique, le coutumier de la province, les traités innombrables des vieux légistes. Il dénombra les ouvrages de théologie, de controverse et d'hagiographie, les amples histoires généalogiques, les vieilles éditions des classiques grecs et des classiques latins, et ces livres, plus grands que des atlas, composés pour le mariage du roi, pour l'entrée du roi à Paris, pour les fêtes de la convalescence du roi et pour les victoires du roi. C'est le fonds le plus ancien de la bibliothèque, dit M. de Bressé, la portion acquise par le maréchal. « Voici, ajouta-t-il, en ouvrant deux ou trois autres armoires, les acquisitions du duc Jean. »« Le ministre de Louis XVI, le bon duc, comme on l'appelait ?» demanda M. Leron. « Précisément, répondit M. de Bressé. » Le fond du duc Jean couvrait tout le côté de la cheminée et tout le côté de la vue rustique et villageoise. M. Leron lut à haute voix les titres poussés en or entre deux nervures sur les dos ornés des volumes. Encyclopédie méthodique, œuvre de Montesquieu, œuvre de Voltaire, œuvre de Rousseau, de l'abbé Mably, de Condillac, histoire des établissements européens dans les Indes, par Rénal. Puis il feuilleta les petits poètes et les conteurs à vignettes, Grécourt, Dora, Saint-Lambert, le Boccace illustré par Marillier, le La Fontaine des fermiers généraux. Les gravures sont un peu libres, dit M. de Bressé. J'ai dû faire disparaître d'autres ouvrages de la même époque dont les figures étaient vraiment licencieuses. Cependant, M. Leron découvrait, à côté de ses livres légers, une suite nombreuse d'ouvrages de politique et de philosophie, des traités sur l'esclavage, des relations de la guerre des insurgents américains. Il ouvrit les vœux d'un solitaire et vit que les marges étaient couvertes d'annotations de la main du duc Jean. Il lut tout haut une de ses notes. L'auteur dit vrai, les hommes sont naturellement bons, ce sont les faux principes de la société qui les rendent mauvais. Voilà, ajouta-t-il, ce que votre trisaïeul écrivait en 1790. C'est curieux, dit M. de Bressé en replaçant le livre sur le rayon. Puis, ouvrant l'armoire du Nord, « De ce côté sont les livres de mon grand-père, qui fut page de Charles X. » Monsieur Leron reconnut là, vêtu de basane sombre, de veau fauve, de demi-chagrin noir, les œuvres de Chateaubriand, les collections des mémoires sur la Révolution, les histoires d'Anquety, de Guizot, d'Augustin Thierry, les cours de littérature, de la harpe, la Gaule poétique de Marchangy, les discours de Monsieur Lainé. À la suite de cette littérature de la Restauration et du gouvernement de Juillet, traînaient sur une tablette deux ou trois brochures débraillées relatives à Pie IX et au pouvoir temporel, deux ou trois volumes déguenillés de romans, un panégyrique de Jeanne d'Arc prononcé dans l'église Saint-Exupère le 8 juin 1890 par Monseigneur Charlot, et quelques ouvrages de dévotion pour femmes du monde. C'était la contribution du feu duc, membre de l'Assemblée nationale en 1871, et du duc actuel de Bressé à la bibliothèque créée par le maréchal en 1705. « Permettez que je ferme à clé les armoires, » dit M. de Bressé. « Il faut prendre garde. Mes fils sont à l'heure qu'il est de grands garçons. La fantaisie n'aurait qu'à leur venir de fouiller dans la bibliothèque. C'est qu'on trouverait là-dedans des livres qui ne doivent pas tomber sous la main d'un jeune homme ni sous les yeux d'une femme qui se respecte, quel que soit son âge. » Et M. de Bressé ferma les armoires avec le zèle de bien faire, la certitude heureuse d'emprisonner la luxure, le doute, l'impiété, les mauvaises pensées. Il goûtait le fier consentement de mettre sous clé le mal universel. Et ce sentiment, s'il s'y mêlait quelques vanités d'hommes simples et quelques secrètes jalousies d'ignorants, était encore assez pur et beau. Quand il eut fourré le trousseau de clés dans sa poche, M. de Bressé tourna sur M. Leron une face satisfaite. « Au-dessus, dit-il, se trouve la chambre du roi. Les anciens inventaires embrassent sous cette dénomination tout l'étage supérieur. La chambre, proprement dite, renferme le lit où Louis XIII a couché. Il est encore recouvert de ses anciennes broderies de soie. Cette chambre mérite d'être vue. » M. Leron ne tenait plus debout. Ses jambes, pliées tout le long de la journée sous son bureau, avaient mal enduré la marche sur le sol gras du parc, le piétinement dans les écuries, le pèlerinage sylvain à Notre-Dame-des-Belles-Feuilles. Elles étaient molles et défaillantes, et terminées par des pieds chauds et douloureux, car l'avocat des congrégations avait, malencontreusement, pour bien faire, chaussé des bottines vernies. Il leva sur le plafond un regard de détresse et balbutia « Il se fait tard, ne conviendrait-il pas de rejoindre ces dames au salon ?» Monsieur de Bressé n'était terrible que dans la visite de ses écuries. Pour le reste de la tournée, ce propriétaire entendait raison. « Oh, il ne fait plus bien jour, en effet, dit-il, ce sera pour une autre fois. À droite, monsieur Leron, à droite, s'il vous plaît. » Dans l'embrasure de la porte, l'ancien substitut s'écria « Oh, quel mur, monsieur le duc, quel mur, ils sont d'une épaisseur !» Son mince visage, demeuré tranquille et froid devant les trophées de chasse du vestibule, devant les peintures historiques du salon, devant les tapisseries somptueuses, le plafond magnifique de la galerie, devant ses beaux livres, ses reliures de maroquins au petit fer, s'animait, s'illuminait, éclatait d'admiration. M. Leron avait enfin découvert un sujet de surprise et d'émoi, de méditation et de plaisir moral, un mur. Son âme de juge, brisée dans sa fleur en même temps que sa fortune, lors de l'exécution des décrets, son cœur, privé trop tôt de la joie de punir, jubilait à la vue d'un mur, de la chose sourde, muette et sombre, qui rappelait à sa pensée ravie les idées de prison, de cachot, de peine subie, de vindicte sociale, de code, de loi, de justice, de morale. Un mur. En effet, dit M. de Bressé, le mur à cet endroit, entre la galerie et le pavillon, est d'une épaisseur extraordinaire. C'était la muraille extérieure du château primitif, construit en 1405. Et M. Leron contemplait le mur, le mesurait des yeux, le palpait de ses petites mains jaunes et crochues, l'étudiait, le vénérait, l'aimait, le possédait. En rentrant dans le salon, « Mesdames, dit-il au duc de Bressé, le duc a bien voulu me faire les honneurs de sa curieuse bibliothèque. J'ai remarqué en passant ce mur extraordinaire qui sépare le pavillon de la galerie. Je ne crois pas qu'il existe rien d'aussi prodigieux, même à Chambord. » Mais ni les dames de Bressé, ni madame de Courtrai ne l'entendirent. Elles étaient remplies et agitées d'une idée unique. « Jean !» cria madame de Bressé à son mari. « Jean, regardez cela !» Et elle lui montrait un écrin de chagrin rouge posé sur le guéridon près de la lampe qu'on venait d'apporter. Cet écrin était en forme de boule, surmonté d'un appendice en façon de dé à coudre, et il se prolongeait à sa partie antérieure en manière de trèfle. Une carte de visite était posée tout à côté. Au pied de la table se pressaient, comme de petits chiens blancs avec des faveurs bleues, des papiers de soie froissés. « Jean, regardez donc !» L'abbé Guitrelle, qui se tenait debout contre le guéridon, ouvrit d'une main respectueuse l'écrin et découvrit un ciboire d'or. « Qui vous envoie cela ?» demanda M. de Bressé. « Regardez la carte. Je suis horriblement ennuyé. Je ne sais que faire. » M. de Bressé prit la carte, mit son lorgnon et lut « Baronne Jules de Bonmont pour Notre-Dame des Bellefeuilles ». Il posa la carte sur la table, mit son lorgnon dans sa poche et murmura « C'est très contrariant. »« Un ciboire, un beau ciboire, » dit M. l'abbé Guitrelle. « Quand j'étais enfant de cœur, » dit le général, « j'entendais les pères appeler cette sorte de vase une custode. » Un ciboire ou une custode, en effet, dit l'abbé Guitrelle, tels sont les noms qu'on donne aux vases renfermant la réserve eucharistique. Mais la custode affecte la forme d'un cylindre avec un couvercle en cône. Monsieur de Bressé demeurait songeur, le front coupé d'un grand pli sombre. Il souffla et dit « Pourquoi cette madame de Bonmont, qui est juive, donne-t-elle un ciboire à la chapelle de Notre-Dame des Bellefeuilles ?» « Quelle rage ont donc les Israélites de se fourrer dans nos églises !» Monsieur l'abbé Guitrelle, les doigts dans ses manches, passa sa langue sur ses lèvres et dit avec douceur « Permettez-moi, monsieur le duc, de vous faire observer que madame la baronne Jules de Beaumont est catholique. »« Allons donc !» s'écria monsieur de Bressé. « C'est une juive autrichienne, une demoiselle Weinstein. Son mari, le baron de Beaumont, s'appelait de son vrai nom Gutenberg. » Permettez, monsieur le duc, dit monsieur l'abbé Guitrelle, je ne dis pas que la baronne de Bonmont ne soit d'origine israélite. Je me permets de vous représenter que, convertie et baptisée, elle est chrétienne. J'ajouterai qu'elle est bonne chrétienne. Elle multiplie ses dons aux œuvres catholiques et donne l'exemple de... Monsieur de Bressy l'interrompit. « Monsieur l'abbé, je connais vos idées. Je les respecte comme je respecte votre ami. Mais pour moi, un juif converti est un juif tout de même. Je n'en fais pas de différence. »« Moi non plus, » dit madame Jean de Bressé. « Vos impressions, madame la duchesse, sont légitimes en quelque manière, » répliqua l'abbé Guitrelle, « mais vous ne pouvez ignorer ce que l'Église enseigne, à savoir que la malédiction divine prononcée contre les Juifs poursuit leur crime et non leur race, et que les effets de cette réprobation ne sauraient atteindre les... » « Il est lourd !» dit monsieur de Bressé, qui, ayant tiré le ciboire de sa gaine, le tenait soulevé dans ses mains. « Je suis vraiment contrarié, » dit madame Jean de Bressé. « Je suis très lourd, » répéta monsieur de Bressé. « Et qui plus est, » ajouta monsieur Guitrelle, « il est fort bien travaillé. Il présente ce caractère de distinction qui est, pour ainsi dire, le cachet de rondonneau jeune. Seul l'orfèvre de l'archevêché pouvait choisir aussi judicieusement son modèle dans les traditions de l'art chrétien et en reproduire la forme et les ornements avec autant de bonheur que de fidélité. Ce ciboire est un ouvrage tout à fait hors ligne, dans le style du XIIIe siècle. Le gobelet et le couvercle sont en or massif, dit M. de Bressé. D'après les règles de la liturgie, dit M. l'abbé Guitrelle, la coupe du ciboire doit être en or, ou tout au moins en argent doré à l'intérieur. M. de Bressé, qui tenait le vase renversé, dit « Le pied est creux. »« Heureusement !» s'écria Madame Jean. M. l'abbé Guitrelle coula son regard sur l'œuvre de rondonneau jeune. N'en doutez point, dit-il, c'est là le style du XIIIe siècle, et l'on ne pouvait en choisir un meilleur. Le XIIIe siècle est l'âge d'or de l'orfèvrerie religieuse. À cette époque, le ciboire affecte la forme heureuse d'une grenade que vous reconnaissez dans cette belle pièce. Le pied solide et sans maigreur s'enrichit d'émaux, de pierres précieuses. Miséricorde, des pierres précieuses ! S'écria Madame Jean. Ah, des anges, des prophètes sont ciselés finement dans les cadres en losanges du plus heureux effet. C'était un fripon, ce bon monde, dit soudainement Madame de Courtrai. C'était un voleur, et sa veuve n'a pas restitué. Vous voyez qu'elle commence, dit Monsieur de Bressé, en montrant du doigt l'étincelant ciboire. Que faire? Demanda Madame Jean. Nous ne pouvons pas lui renvoyer son cadeau, répondit Monsieur de Bressé. Pourquoi? Demanda Madame de Bressé, mère. Mais, maman, parce que c'est impossible. « Alors il faut le garder, dit Madame Jean. »« Eh oui. »« Et la remercier, dame. »« C'est votre avis, général ?»« Il eût été préférable, dit le général, que cette dame, qui n'est pas en relation avec vous, se fût abstenue de vous faire un présent. Mais il n'y a pas de motif pour répondre à sa politesse par un affront, c'est évident. » L'abbé Guitrelle prit le ciboire entre ses mains vénérables, le souleva et dit... Notre-Dame des Belles Feuilles regardera d'un œil bienveillant, j'en suis sûr, ce don destiné par une âme pieuse au tabernacle de son autel. Mais, fichtre, dit M. de Bressé, Notre-Dame des Belles Feuilles dans cette affaire, c'est moi. Si Madame de Beaumont et le petit Beaumont veulent être invités chez moi, ils le voudront. Maintenant, je suis obligé de les recevoir.